Elle lui a dit ça comme ça, comme si c'était une journée normale, alors que partout les gens meurent. 122 en Belgique à ce jour, 34 nouveaux décès sur les dernières 24 heures. Après, c'est vrai, il y a aussi des signes encourageants. 410 personnes ont pu quitter l'hôpital chez nous. Un ralentissement des courbes. Il a envie d'y croire. Que bientôt, on sera débarrassé du monstre. Il a entendu que Lionel Richie voulait faire un remake de We Are The World pour lutter contre le virus. Lui, il pense que We Are The World, sans Michael Jackson, c'est pas We Are The World. Et si Léa ne revenait pas? Si elle était foudroyée dans son Deleuze? Antoine sait qu'il faut 14 jours au virus pour incuber, mais quand même, on ne sait jamais, les caissières sont en première ligne. Antoine a lu ça sur un site d'info. Dominique, caissière en Seine-et-Marne, a dit « On est de la chair à canon. La peur a remplacé la fierté d'être à son poste. » Elles sont non seulement confrontées au risque d'attraper le virus, mais aussi aux incivilités de certains clients. En pensant à Léa, coincée entre sa caisse enregistreuse et le tapis roulant, ganté de bleu, avec ses petits crocodiles sur la bouche, Antoine a souri intérieurement, puis il s'est repris. Comme c'est la première fois qu'il se retrouve seul dans cet appartement, il en a profité pour regarder de plus près les photos qui sont collées un peu n'importe comment sur la porte du frigo ou punaisées au-dessus de la cheminée du salon. Des soirées entre filles, des photomatons à 4 ou 5 où tout le monde fait sa plus belle grimace, des anniversaires, des vacances et puis un type qui la colle d'assez près sur une demi-douzaine de clichés. Tout à coup, Antoine s'est vu en train de fouiner. Il s'est ressaisi. Ça va pas, non? Cette crise lui fait faire n'importe quoi. Quand elle sera terminée, ce sera chacun chez soi, comme avant. Léa est rentrée tard, éreintée, énervée. Elle a ramené quelques vivres. Il ne lui a pas demandé si elle avait passé une bonne journée. Il ne lui a pas dit non plus qu'il était content de la voir, parce que lui-même ne se fait pas trop à cette idée. Elle ne lui a pas raconté que l'atmosphère dehors était étrange, presque malsaine. Tous ces gens qui se regardent comme des ennemis potentiels alors qu'ils vivent la même galère. Elle ne lui a pas demandé non plus ce qu'il avait fait de sa journée. Ce sont des questions de couple. Elle lui a juste demandé s'il y avait eu du bruit en bas. Il a menti. Puis ils ont mangé une lasagne, bu du vin, un peu trop. « Faut que j'y retourne demain. » Mais le matin seulement, a-t-elle dit. Il n'y a pas assez de personnel disponible. Ils se sont couchés plus tôt que d'habitude. Pour la première fois, ils n'ont pas fait l'amour. La fatigue, le vin, Léa a coulé dans le sommeil comme un corps lesté de plomb s'enfonce dans la mer. Mardi matin, tôt, Léa l'a laissé dormir. Antoine ne l'a pas entendu se lever, se doucher, ni quitter l'appartement. Et même s'il a trouvé le geste sympathique, il aurait aimé l'entendre lui dire « à tout à l'heure », sur le même ton que son « à ce soir » de la veille. « Merde », se dit Antoine, « cette fille commence à me manquer. » Au même moment, une sirène se fait entendre dans la rue. Antoine court à la fenêtre. Un combi est arrêté juste devant la maison. Deux policiers, masqués, en sortent et se dirigent vers la porte d'entrée. Antoine entend la sonnette retentir dans l'appartement d'en bas.
La première, 11h30, 13h... Entrez sans frapper.
Hier, mardi, 10h. Antoine a tendu l'oreille. Les flics avaient l'accent flamand. Antoine s'est demandé ce que ça devait donner, point de vue confort. Une moustache sous un masque. Ils ont sonné, ils ont cogné à l'étage du dessous. Personne n'a ouvert. La veille, Léa lui avait résumé un article qui disait combien le confinement était un piège pour les victimes de violences conjugales, un piège aussi pour les enfants abusés. Cette phrase ne cessait de faire des loopings entre ses oreilles. « C'est pas un gars avec qui on se réconcilie. » Un pédocriminel, l'ex de la voisine. Voilà qui ajoutait une couche au malaise qu'Antoine ressentait dans cet appartement depuis 2 jours. Depuis qu'il y était seul la journée, sans Léa, et qu'elle rentrait le soir couverte de germes et de bacilles. Entre 20 et 50 ans, les femmes seraient plus touchées par le virus que les hommes. Et comme en plus Léa était caissière, la peau des mains d'Antoine craquelait de partout et chaque goutte d'eau savonneuse lui faisait l'effet d'un bain d'acide. Il avait connu un épisode d'apaisement après avoir lu lundi que la courbe des morts s'aplatissait en Belgique, le bourgeon d'un espoir qu'il avait entretenu en prenant le soleil sur le balcon, et puis paf, ce midi, retour à la réalité, de nouveau l'hécatombe, 34 morts depuis la veille, même si les hospitalisations baissaient. L'angoisse tambourinait sur ses côtes. Et la manière dont Léa gérait la sienne lui convenait de moins en moins. Il espérait se dérober aux infos les plus anxiogènes, mais n'y parvenait pas tant sa logeuse passait son temps à égrener le pire du pire des horreurs du net. Cette patinoire transformée en morgue à Madrid, ces cadavres découverts par des militaires dans des maisons de retraite, toujours en Espagne, le confinement toujours plus strict en France, et même Boris Johnson qui avait arrêté de déconner. Tout cela refermé sur la poitrine d'Antoine, les serres d'un aigle qui s'apprêtait à lui décapsuler la tête. Les flics ont fini par se jeter sur la porte de la voisine en hurlant de s'en éloigner. Antoine a entendu un crack, quelque chose qui cédait, puis une mêlée indistincte de cris dans plusieurs langues, une grosse voix d'homme qui protestait, des insultes, les pleurs d'une femme. C'était affreux, affreux, affreux. Il y a eu des bruits de lutte dans l'escalier, des ordres étouffés par des masques, et puis plus rien. Dans ce silence brutal, l'aigle a commencé à percer la dure mer du cerveau d'Antoine. Le jeune homme ne pouvait pas rester là. Il a saisi son téléphone pour envoyer un texto à Léa. À Léa, a découvert le sien. « T'as vu que les coiffeurs allaient aussi fermer maintenant ?» avec un emoji qui riait. Il ne comprenait pas comment cette fille avait encore le cœur à plaisanter. Ses poings se sont serrés. Il en a balancé un dans un mur et a commencé à saigner aux jointures. S'il restait, c'est sûr, viendrait bien un moment où il se mettrait sur la gueule, Léa et lui. S'il restait, c'est sûr, il allait devenir dingue. S'il partait aussi, d'ailleurs. Alors autant devenir dingue avant que Léa s'aperçoive de quelle couille molle elle s'était entichée. Antoine a mis 2-3 affaires dans un sac en plastique. Il a ouvert le frigo et y a dérobé un pack de 6 bières. En a découpillé une, puis deux. Le temps de prendre son élan, il s'est décidé à répondre à ce message de son pote Jim. Oui, il serait là ce soir. C'était pas raisonnable, mais c'était ça ou crever. En tout cas, crever tout de suite. Quand Léa est rentrée, il n'y avait aucun mot, mais 3 canettes vides sur la table de la cuisine. Ce matin, elle s'est réveillée seule, les mâchoires encore serrées de la veille. Un arrêt ministériel allait élargir les heures d'ouverture des commerces. À 11h, on apprenait le nouveau chiffre, 56 morts. Et Antoine, il avait envoyé, quant à lui, à 3h du matin, un message. J'ai déconné. Pardon.
La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper.
L'injuste destin du pangolin, le 9e jour. Mercredi, 11h, Léa en est à son 3e apéro. De toute façon, elle s'en fout. Aujourd'hui, c'est son jour de congé. Sa vitre de protection à la caisse du Deleuze, son masque, le bip monomaniaque du scan et tous ces gens qui pleurent pour des rouleaux de papier hygiénique, ça ne va pas lui manquer. Avec ses copines de caisse, elles rigolent. Entre elles, elles disent des trucs pour décompresser. Au moins, s'ils crèvent, ils crèveront avec le cul propre, dit Colette. À mon avis, il y en a qui en congèlent, c'est pas possible, enchaîne Anna. Ces gens, ils n'ont pas de bidet, conclut Fatima. Léa ne sait pas si elle boit pour oublier que les supermarchés pourraient ouvrir de 7 à 22 heures, ce serait au-dessus de ses forces. Et encore, elle, ça va, elle n'a pas de gosse, mais quand elle pense à Mimi et Laura qui doivent faire garder leur môme et se démerder, je t'en ferai bouffer, moi, du papier cul. Elle sent qu'elle est bien partie, là, elle sent bien qu'elle pourrait s'engueuler avec la porte du frigo même. Elle ne sait pas si elle boit pour oublier son boulot ou pour oublier l'autre débile qui lui a envoyé un texto à 3h du matin. « J'ai déconné, pardon. » C'est bien les mecs, ça. « J'ai déconné, pardon. » Ils sont tout le temps en train de demander pardon, comme s'ils venaient de casser un vase devant leur maman. En se resservant un verre de vin blanc, Léa dit à voix haute « T'as bien fait de dégager, crevard. » Au fond d'elle, elle pense « Quel con. Mais quel coup. » Elle finit la bouteille de vin et ouvre son laptop pour suivre les infos. Et comme si le monde savait qu'en ce moment même, elle est déjà en manque, elle lit ce titre. Une distillerie recycle son jeans pour en faire du gel hydroalcoolique. Comme si l'univers entier sentait que se faire planter par Antoine, c'était pire que voir sa vitre de protection exploser en 1000 morceaux. Léa lit un article sur le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui annonce que face à l'épidémie du coronavirus, toute l'humanité est menacée. Et elle se dit... Bien sûr que toute l'humanité est menacée. La preuve, il est 13h30 et il n'a toujours pas laissé de message. Si Antoine fait le mort, que l'humanité crève. J'irai sur Tinder ce soir pour voir ce qui reste de comestible dans les rayons. Léa, elle compte bien swiper sans modération et en mettre quelques-uns à congeler aussi, en attente. Là-dessus, comme une alcoolo qu'elle n'est pas, mais qu'elle pourrait devenir, elle claque le capot de son ordi, se lève, se retourne et s'écroule sur son lit. Sa dernière pensée avant de s'endormir, « Dieu, si tu existes, fais que je ne meure pas étouffé dans mon vomi. » Il fait nuit quand Léa se réveille. Sa première réflexe est de se dire « Chouette, je ne suis pas morte. » Son deuxième, de regarder son téléphone. « Chouette, pas de message d'Antoine. » Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est où ? Je ne sais même pas où il habite. Il s'est fait virer du garage, c'est sûr. Il pense peut-être que moi, je vais lui envoyer un message. Mais il rêve. Au petit matin, Léa prend son téléphone et tape un texto à Antoine. « Pardon accordé, je suis plus solide qu'un vase. » Et elle envoie le message en pensant que 56 personnes supplémentaires sont mortes du coronavirus aujourd'hui en Belgique. « Ok, pense Léa, c'est moche. Mais tant qu'Antoine n'est pas la 57e, tout va bien. »
La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper.
L'injuste destin du pangolin, le 10e jour. Léa vit dans un immeuble de 5 étages, 5 appartements, étroit mais vivable. Au rez-de-chaussée, un couple de quarantenaires qui dit toujours bien bonjour. Elle est marocaine, lui est blond aux yeux bleus. Au premier, la locataire dont elle est la plus proche, Lydia Fausse-Rousse, la trentaine, qui passe son temps dans les manifs en tout genre, pour le climat, contre le nucléaire, pour les Ukrainiens, contre la réforme sur l'allongement du temps de travail. Un boulot à temps plein, c'est elle qui a viré son petit copain il y a 3 mois. Au second, il y a Léa. Au troisième, Maria et sa fille de 13 ans. Elles se disent bonjour quand elles se croisent dans le hall d'entrée, mais sans plus. La gamine est là à temps plein, parfois Léa se demande ce qui arrivait au père. Elle n'a jamais osé poser la question. Enfin, en quatrième, il y a celui que tout le monde appelle la bête. Léa lit la presse du jour sur son ordinateur quand elle reçoit un nouveau message d'Antoine. « Ah oui, désolé. » Elle en a marre que les mecs passent leur temps à s'excuser. Qu'ils arrêtent de déconner, ce serait plus simple. « Ah oui, désolé, » dit le message. « Je t'ai menti. Avant-hier au matin, les flics ont débarqué chez ta voisine. Ça gueulait dans tous les sens. Tu devrais peut-être aller voir. » Elle ne lui répond pas. Elle enfile toutefois ses pantoufles. Il n'y a plus personne à qui plaire, de toute façon. Emprunte l'escalier et frappe à la porte de Lydia. Personne. Elle frappe un peu plus fort. Rien. Tout à l'heure, elle viendra glisser un petit mot sous la porte pour dire qu'elle est là, que si Lydia a besoin d'elle, elle sait où la trouver, qu'il ne faut pas qu'elle hésite. Elles ne sont pas copines, enfin pas vraiment. Mais cette période incite à vouloir être là pour les gens un peu plus que d'habitude. Léa se demande si ça durera après le confinement. Cette façon que nous avons d'être, bien qu'éloignés, un peu plus proches et attentifs aux autres. Léa rentre chez elle. Elle rallume son ordinateur. Après 10 jours et surtout sans Antoine, elle ne sait plus ce qu'il y a d'autre à faire qu'allumer son ordinateur. Rire à certaines blagues, s'émouvoir d'une photo, d'une chanson, et faire monter l'angoisse en faisant défiler les sites d'infos. Hier en France, ils ont annoncé la mort d'une ado. À l'étage du dessus, il y a donc Maria et sa fille de 13 ans. Maria est en télétravail, une chance, parce qu'elle ne sait pas comment elle aurait procédé pour faire garder la gamine. Mais après 10 jours, Maria n'en peut déjà plus. Parce qu'en plus de son boulot et des tâches habituelles, il faut aussi faire l'école à domicile. Maria et sa fille sont donc attablées. La gamine est d'une humeur désastreuse. Maria, elle, fait semblant d'avoir de l'entrain. Elle fait semblant aussi de trouver cela normal, de recevoir une telle quantité de travail à faire pour l'école. Elles sont plongées dans un devoir de mathématiques. En gras, au sommet de la feuille, il est écrit « intégrale et primitive ». Maria, elle a un vague souvenir d'avoir vu ça à l'école il y a 25 ans. Alors, comme tous les parents, elle va sur Internet et découvre hébété un cours en ligne. Il est écrit « Pour faire simple, une primitive, c'est l'inverse de la dérivée. La dérivée d'une fonction f se note f' et généralement, la primitive de f minuscule se note f majuscule. Par définition, f minuscule est la dérivée de f majuscule, ou a alors la relation f majuscule prime x égale f minuscule x. F majuscule est la primitive de f minuscule, donc f minuscule est la dérivée de f majuscule. » Elles ont toutes les deux les yeux rivés sur l'écran. Personne n'ose parler. Maria, elle a envie de pleurer. Et puis sa fille aussi. Mais Maria se reprend. « Je ne peux pas t'expliquer cela, chérie, je n'y comprends rien. » La gamine répond « Mais maman, je dois le faire, sinon je vais être en échec. » L'objectif des élèves n'est pas d'apprendre, c'est de ne pas avoir d'échec. Voilà le résultat d'une politique éducative en vigueur chez nous depuis la nuit des temps. On note les enfants avec des points. Tout autre système de valeurs est écarté. Tu peux massacrer des animaux de compagnie ou torturer ta vieille grand-mère avec des aiguilles à tricoter. Si tu as de beaux points à l'école, tu es un bon garçon ou une gentille fille. Maria, elle se sent nulle. Et puis coupable aussi de ne pas pouvoir aider sa fille. Il y a des parents qui y parviennent, mais pas elle. Alors elle s'en veut. Et ça rajoute encore à son mal-être d'être confinée depuis 10 jours. Et puis la petite aussi, elle se sent nulle. Elle sait aussi que sa copine Sarah, sa mère est prof, et qu'elle, elle va réussir. Alors Maria, elle dépose les armes et elle dit « Je suis pas prof, chérie. Si les copains pensent que tous les parents peuvent donner cours, elles se trompent. On n'en est pas tous capables. Je suis désolée, ma belle, mais moi, je ne sais pas faire ça. » Alors la gamine, elle se lève, fait le tour de la table et vient poser un baiser sur le front de sa mère. Et ça, enfin, c'est beau. Ce vendredi matin, 1049 nouveaux cas en Belgique ces dernières 24 heures, 490 nouvelles hospitalisations, 69 décès. Les États-Unis ont désormais le plus grand nombre de cas recensés dans le monde. Au rez-de-chaussée, le couple qui dit toujours bien bonjour joue au Scrabble. Au premier, l'appartement est toujours désespérément vide. Au deuxième, Léa est couchée dans son lit, a fixé son téléphone, envoyé un message ou continué de faire semblant d'être plus solide qu'elle ne l'est en réalité. Au troisième, Maria et sa fille apprennent que des discussions sont en cours. L'école pourrait se prolonger en juillet. Enfin, au quatrième, celui que l'on surnomme la bête est couché à même le sol à fixer le plafond. Il a du mal à respirer et se dit que ce bout de saucisson qu'il vient de manger n'a vraiment aucun goût.
La première, 11h30, 13h. Entrez sans frapper.
L'injuste destin du pangolin, le 13e jour. La bête. C'est le surnom que Léa et Lydia, la locataire du deuxième, dont on n'avait plus de nouvelles depuis l'intervention de la police mercredi dernier, avaient donné au gars du quatrième. Son vrai nom, c'est Derek Smensk. Jadis, son surnom, c'était le King. Quand il était champion de bodybuilding. Il est monté à plusieurs reprises sur le podium de la plus prestigieuse compétition de culturisme, le Joe Wilders Olympia Weekend. Mais il n'avait jamais obtenu le titre de Monsieur Olympia. Aujourd'hui, Derek a 54 ans, mais il fait nettement plus que son âge. Son corps est une ruine, anéanti par l'usage intensif de stéroïdes. Il avait repoussé ses limites, s'était empoisonné au-delà des doses que même les gars les plus frondeurs osaient ingurgiter, mais rien n'y avait fait. L'Américain Ronnie Coleman, dit Big Ron, lui avait à chaque fois raflé le titre. Pendant 8 années consécutives, Derek avait finalement échoué ici, à Bruxelles, après avoir suivi une femme qu'il avait larguée au bout de quelques mois. Sans racine, sans personne pour l'attendre où que ce soit, il était resté. Dans la vie, Derek Smensk n'avait plus qu'une seule ambition, vivre plus vieux que Big Ron, le battre au moins sur ce terrain-là de la longévité. Mais ce samedi 29 mars 2020, à 15h25, Derek Smensk, dit le King, dit la bête, commençait à comprendre que, même cet objectif-là, il risquait de ne pas pouvoir le satisfaire. La fièvre montait et une toux impitoyable lui déchirait l'abdomen. Les sons. C'était au niveau des sons que Léa remarquait combien son monde s'était métamorphosé. D'un côté, ses voisins qu'elle entendait en permanence alors que l'habitude de l'immeuble était plutôt silencieux pendant la journée, chacun vaquant à ses occupations extérieures. Et puis, le silence du dehors, comme un dimanche permanent. Vendredi, elle avait appelé sa copine Marion qui lui avait expliqué d'une voix atone qu'après avoir passé 80% de son temps sur Pornhub depuis le début du confinement, elle envisageait maintenant de se mettre au tricot. Puis elle avait appelé son frère Simon, qui vivait à Jodogne, dans une villa quatre façades avec ses deux fils et sa femme. Simon lui avait expliqué qu'il adorait ses retours aux fondamentaux, qu'il faisait une heure de jogging en famille chaque jour et que sa femme, Coralie, lui avait appris à faire une tarte tatin aux tomates cerises et à la sauge. Elle avait failli lui raccrocher à la gueule. Puis elle avait passé son week-end à boire de la bière en jouant au solitaire sur son ordinateur. À travers la brume de l'alcool, elle avait chopé quelques bribes d'informations, le confinement prolongé jusqu'au 19 avril. Probablement jusqu'au 3 mai, sans trop savoir pourquoi, elle se connectait 40 fois par jour à son appli météo, comme si ça allait lui donner des nouvelles d'Antoine. Il y avait aussi les autres sons. Les applaudissements tous les soirs à 20h, puis le silence terrifiant qui leur succédait. Personne ne lui avait parlé sans l'intermédiaire d'un micro de téléphone depuis maintenant 5 jours. Les syndicats et les patrons discutaient pour accorder aux caissières des jours de congés payés. Elle n'a pas trop suivi. De toute façon, ça ne la concerne pas. Elle est intérimaire. Mais ça serait bien pour ses collègues. Dimanche soir, elle s'endort, ivre. Elle a l'impression que son ADN est en train de muter. Demain, peut-être qu'à sa place dans le lit, on retrouvera un petit tas de houblons. Lundi 30 mars, 8h du matin, un son qu'elle n'a plus entendu depuis plus de 2 semaines. Un son qui lui semble étranger. La sonnette. Elle se lève. En temps normal, elle pesterait contre l'abruti qui ose venir la déranger si tôt le matin, mais aujourd'hui, elle embrasserait même un témoin de Jéhovah, avec la langue et son haleine et tout. Elle décroche l'interphone. Allô ? Oui, c'est Antoine.
La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper.
Mardi 31 mars, 14e jour. En attendant, moi, je continue à me multiplier, à m'étendre. C'est normal, hein. En même temps, je suis le seul à ne pas être confiné, le seul à pouvoir circuler où et comme bon me semble. Personne pour me demander si j'ai une autorisation de sortie ou si je fais des courses essentielles. Je suis désolé de ce qui vous arrive. Vraiment. Il n'y avait de ma part aucune intention malveillante, rien de personnel. Ça aurait pu tomber sur un autre représentant du règne animal, le pigeon par exemple. Vous partagez pas mal de similitudes avec ce